tout le monde.
Merci pour cette invitation que vous m'avez faite pour partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Je le considère comme une grâce et comme une faveur. Le pourquoi, c'est parce que vous n'êtes pas dans l'obligation de faire appel à moi pour prêcher ce matin. Donc, si vous le faites, je le considère comme une grâce, une faveur, et j'en suis fort honoré. Nous sommes toujours dans un temps pandémique. Et la pandémie a fait ressortir des éléments positifs aussi. Entre autres, enfin, on reconnaît le travail exceptionnel de ceux qui sont dans le domaine de la santé. Avant, on reconnaissait bien les efforts de nos Olympiens, surtout lorsqu'ils reviennent au pays avec une médaille au cou. On adule les stars de cinéma, on donne une reconnaissance à ceux qui savent bien pitcher une balle de baseball. Et il y a des personnes, eux, ils font des efforts pour nous garder en santé et pour sauvegarder nos vies. Et puis, je pense que cette reconnaissance qu'on leur donne aujourd'hui à travers tous les grands événements dans la planète, on parle de leur contribution et c'est à juste titre, c'est mérité. Tôt ou tard, on aura besoin d'avoir des soins de ces personnes-là. Ça a été déjà fait plusieurs fois pour ma part. Et c'est des gens qui ne recherchent pas nécessairement des honneurs particuliers. Donc, quant à nous, on va continuer à prier pour eux, à intercéder, que Dieu leur donne une bonne santé, que Dieu les visite aussi, que Dieu les rencontre dans leurs besoins. Et on va glorifier Dieu pour le travail qu'ils ont fait. Ce matin, la prédication a pour but d'honorer Dieu pour sa fidélité. Les chants tantôt nous ont conduits dans des cantiques d'adoration et de louange. Lorsqu'on loue le Seigneur, notre cœur s'ouvre à son amour. Lorsqu'on loue le Seigneur, notre esprit aussi s'ouvre à sa sainteté. Et je pourrais dire qu'on loue le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Pour toutes les bonnes choses qu'il a fait pour nous, on le loue. Et en ce sens, l'Écriture dit « Louez Dieu pour ses hauts faits ». Mais quant à l'adoration, on adore Dieu pour ce qu'il est. Et l'impératif d'adorer Dieu, ce n'est pas comme un commandement parce que Dieu est avide de gloire, il est avide de louange, ça lui prend ça. Pas du tout, du tout. C'est un commandement d'une autre nature. C'est lorsque, en Jésus-Christ, nous avons accès auprès de Dieu, eh bien, la beauté même de Dieu commande notre admiration. La beauté de Dieu commande notre adoration. Il y va de soi. Devant Dieu, la seule position qui est convenable, c'est que nos cœurs se prosternent devant lui et qu'on l'adore. Et Dieu est fidèle. Et ce matin, je souhaite que la fidélité de Dieu suscite notre adoration à son égard. La parole de Dieu parle abondamment de la fidélité de Dieu. Et beaucoup d'autres passages nous ramènent à cette vertu de Dieu qui est sans faille, invariable, indéfectible. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui inspire confiance. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un sur lequel on peut compter en toute sécurité. Cette vertu fait référence à la fiabilité et à la constance. Et c'est en tant que tel que Dieu s'est révélé à travers les âges, les années, les générations, comme le Dieu qui remplit ses promesses, le Dieu qui remplit ses engagements, et aussi le Dieu qui garde ses alliances. Le peuple d'Israël eu à connaître la fidélité de Dieu à travers les alliances que Dieu gardait constamment. Et tous les passages de la parole concernant la fidélité de Dieu, eh bien, pour nous, c'est un appel à notre cœur, pour qu'à notre tour, nous puissions lui faire confiance. Au quotidien, de voir que notre foi va être suscitée par la fidélité de Dieu à chaque jour, au quotidien. Ce n'est pas une déclaration qu'un prédicateur doit faire du haut d'une chaire seulement. C'est une expérience à faire. Une expérience à faire dans des dimensions plus profondes, mais chaque jour. C'est une expérience qui doit être vécue. On va lire deux textes qui vont être des leitmotivs, si Félix me permet de dire ce mot. Deux textes qui nous parlent de la fidélité de Dieu et j'espère que ça va nous inspirer ce matin. Le premier se trouve dans les psaumes, je pense. Okay. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables. Affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Et aussi, nous avons un autre texte dans 1 Thessaloniciens 5, versets 23-24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Dans l'Ancien Testament, souvent fois, nous allons voir le mot fidélité est accompagné du mot bonté. C'est comme une paire, ça. Il y a une profonde corrélation entre ces deux vertus de Dieu. Je pourrais dire que la fidélité découle de la bonté de Dieu. C'est parce que Dieu est bon qu'il permet d'initier de bonnes choses pour toi. C'est parce que Dieu est bon qu'il y va de l'avant avec des projets de bonheur et non pas des projets de malheur. Cependant, la fidélité de Dieu est la garantie que nous pourrions jouir de ses bénédictions et de ces bonnes choses-là. Alors, dans l'Ancien Testament, abondamment, on trouve bonté et fidélité, mais pour le bénéfice de l'illustration, nous allons considérer un texte très connu dans Lamentations 3, versets 23 et 24. Je pense que vous le connaissez tous par cœur. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles les renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Notre vie est fractionné en jour et nuit. Et bien entendu, le matin donne le ton à la journée. C'est-à-dire, à chaque fraction de nos vies, à chaque portion de nos vies, Dieu veut être celui qui donne le ton et il veut commencer par nous bénir, nous donner quelque chose de bon, les bontés de l'Éternel, quelque chose qui est de lui, quelque chose qui est de son cœur. Et Dieu le fait à travers les âges, à travers les générations, pour tous ceux qui croient en lui. Il veut que chaque portion de nos vies, chaque portion de notre vie, dis-je bien, commence par sa bénédiction. Et il le fait depuis toujours. Mesdames et messieurs, on appelle cela de la constance. Et si on fait l'expérience que chaque matin, Dieu a quelque chose de bon pour nous que nous pouvons aller cueillir par la foi dans la prière, eh bien, il y a une réponse que nos cœurs doivent lui donner. Et la réponse, l'auteur le dit, « Oh, que ta fidélité est grande !» Ici, il y a de l'exclamation. Ce n'est pas une expression froidement dite. « Oh, que ta fidélité est grande !» Il y a de la chaleur dans la voix. Là. Parce que la fidélité de Dieu commande notre admiration. Et dans ce texte-là, il y a une doctrine de notre bien-aimé pasteur Jeff. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette doctrine de pasteur Jeff, parce qu'il est le seul à nous enseigner ça. Une doctrine biblique, à part ça. Vous ne l'avez pas vu. Hein? La doctrine sur le « Oh! » Oh, que ta fidélité est grande. Oh, qu'il est beau de voir les frères d'un même amour s'unir entre eux. Ça veut dire que Dieu a fait quelque chose, là. N'oubliez pas, dans la chair, nous sommes des ennemis. Avant, je disais, nous sommes de potentiels ennemis, mais quelqu'un m'a corrigé, il m'a dit, non, Pierre, dans la chair, on n'est pas des potentiels ennemis. Nous sommes des ennemis. On est haïssables, on s'haït l'un l'autre, on n'est jamais content du progrès de l'autre, on est pressé de franchir nos propres fils d'arrivée tout en piétinant les autres sur notre chemin. Et lorsque ça va bien pour un autre, on lui fait un faux sourire. Hein. On est haïssable et digne d'être haï dans la chair. Qu'est-ce que Dieu fait? Il nous prend dans son amour. Il nous adopte. Il fait de nous une famille, des frères. Et puis, il a soufflé son amour dans nos cœurs. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Maintenant, nous sommes capables de nous aimer de même amour, c'est-à-dire un amour qui vient d'en haut. Si ça, ce n'est pas un miracle, je ne sais pas c'est quoi. Oh, qu'il est beau de voir cela. C'est l'œuvre de Dieu. Oh, que sa fidélité est grande. Waouh, c'est ça que ça veut dire. Il y a de l'exclamation. Bien entendu, il y a un encouragement dans le texte que je viens de lire à la dévotion matinale. Parce que nous aussi, dès le matin, nous devons être prêts à cueillir ces bénédictions de Dieu. Ce que Dieu nous donne, c'est quelque chose pour qu'on puisse passer la journée, pour qu'on puisse passer les épreuves de ce jour, pour qu'on puisse avoir la force de se tenir loin du péché. La dévotion matinale est encouragée. Et il est encouragé par le Seigneur. Dans son humanité, le Seigneur lui-même faisait tout le temps une dévotion matinale. Je sais que dans le contexte que l'on vit, notre vie est minutée, on a des obligations de travail, des fois le temps nous presse, des fois le petit dernier n'a pas encore brossé ses dents. Mais il faut que Dieu nous accorde une discipline dès le matin de donner le ton à notre journée en passant un temps de dévotion. Isaïe 50, verset 4, nous parle de la dévotion matinale de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est quelque chose d'intéressant. Isaïe 50, verset 4. Il dit, « Le Seigneur m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Parole de l'Écriture pour le peuple du Seigneur. » Écoutez, ici, le texte nous dit, au début du texte, si tu peux le remettre, le texte nous dit que Dieu a donné à son Fils une langue exercée. Ah! Il y a quelque chose qui ne fait pas trop glamour ici. Jésus-Christ s'exerçait pour sa prédication et pour son message. Dieu lui a donné une langue exercée. On est dans une... on est quasiment dans une culture mondiale, à part de ça, où ce que on fait la promotion de ce qui est instinctif, de ce qui est naturel, de ce qui sort de toi-même comme par magie, comme si personne n'avait rien déposé en toi. Et même, ce n'est pas tellement avantageux pour un artiste de dire qu'il a fait ses études à telle place. Parce qu'il faut laisser l'impression au public que ça vient de moi comme ça. C'est ça qui est glamour présentement. Le Seigneur lui dit, Dieu a exercé sa langue à la prédication. Pourquoi? Pour qu'il puisse soutenir celui qui est abattu. Parce que lorsqu'on rencontre des gens qui sont abattus, il faut avoir la parole à propos pour cette personne-là. On ne peut pas arriver et lui faire la lecture du livre de l'Apocalypse. Il faut que Dieu lui donne des paroles à propos pour cette circonstance que la personne vit. Le texte en hébreu dit que, notre texte qu'on vient de lire dit « il éveille mon oreille », mais en hébreu, le texte, c'est « il a creusé son oreille ». C'est M. Blocher qui le dit. Il a fait un petit trou. En québécois, on dit un petit creux. Ça a-tu passé dans le petit creux? Afin qu'il puisse recevoir l'instruction de son Père. Dieu a creusé son oreille. C'est sûr qu'il y a certaines personnes, vous serez tenté d'aller leur creuser l'oreille aussi. Ça, ce n'est pas votre travail. Ça, c'est le travail de Dieu. Vous allez faire des dommages si vous faites ça. Il a creusé son oreille. Je ne sais pas si vous remarquez quelque chose ici. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le maître incontesté. Pour nous, en tout cas, il l'est. Mais on parle de lui ici comme un disciple, parce que Isaïe prophétise sur la personne de Jésus-Christ. Et dans son humanité, il a aussi occupé la chaise du disciple. Il recevait par instruction de son Père la discipline qu'il devait suivre, une discipline qui devait l'amener à la croix. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a eu une formation d'instruction. Et c'est ça, dès le matin, chaque portion de sa vie, dès le matin, il recevait ça de son Père. Nous aussi, dès le matin, nous voulons recevoir l'enseignement du Père. Mes enfants, je leur fais une dévotion un peu spéciale. À toutes les circonstances de la vie, à toutes les opportunités où ce que je puisse leur raconter les merveilles de Dieu, je vais le faire. Des fois, surtout lorsqu'il y a des courants idéologiques qui viennent et puis nos enfants ressentent la pression de faire comme tout le monde. Tout le monde le fait le don. Et c'est là qu'un enseignement, s'il est bien reçu, va être profitable pour dire, fais confiance à Dieu, fais confiance à Dieu. Des fois, ils vont dire, bon, papa va faire son speech là maintenant. Mais aussi, mais aussi, mais aussi. Mais oui, mes petits amours, tant que je suis vivant, je vais vous speecher sur la bonté de Dieu et sa fidélité. Je vais vous speecher. Oui, nous devons raconter les merveilles de Dieu à la prochaine génération, nos enfants, qui à leur tour le fera. Le psaume 78 nous le recommande. Pour qu'un jour, eux aussi disent « Waouh, que Dieu est fidèle ». Dès le matin, on reçoit une provision de Dieu. Et ça, c'est pour nous aider à passer les épreuves du jour. Parce qu'il est aussi écrit « À chaque jour suffit sa peine ». Et la peine, c'est une petite douleur. C'est un mal, c'est un petit malheur, c'est une peine. Et ce n'est pas Satan qui l'envoie sur notre vie. Il n'est pas dans le décor, là, de cette affaire-là. Il n'est vraiment pas dans le décor. C'est Dieu qui envoie cette petite douleur-là chaque jour dans nos vies. Et l'épreuve pour Dieu, c'est quoi? C'est un prétexte. C'est un pur prétexte afin de nous amener nos vies conformes à la stature parfaite de Jésus-Christ. Les épreuves dans nos vies, c'est un prétexte de Dieu pour nous faire grandir, pour que notre foi puisse grandir, qu'on lui fasse confiance de plus en plus, qu'on découvre sa fidélité. Un autre texte, et j'aime bien ce texte-là, mais c'est qui me vient maintenant, c'est le psaume 121. Et il y a quelque chose là-dedans qui est vraiment intéressant, qui montre la constance de Dieu avec nous, que Dieu est toujours avec nous. Vous savez, dans mon pays, c'est un pays de soleil, même si ces jours-ci, le soleil semble être voilé, et vous connaissez les raisons et les circonstances. Des fois, il y a une gang qui se tient à l'angle de deux murs. Ils se tiennent à une angle comme ça, mais le soleil projette leur ombre de l'autre côté du mur. Et les personnes qui sont de l'autre côté du mur ne voient pas la gang qui est là, mais ils reconnaissent cette gang-là parce qu'ils reconnaissent leur ombre. Ils reconnaissent l'ombre de chaque personne. Tellement il y a du soleil, on finit par reconnaître la forme de chaque personne dans son ombre. Certains diront, c'est pas difficile de reconnaître l'ombre du prédicateur, mais quand même. Et ce que j'aime dans ce psaume, surtout lorsque nos ennemis spirituels nous poursuivent, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Ici, c'est une expression, on ne peut pas avoir plus intime que cela, pour dire que Dieu est avec nous. Et non seulement qu'il est avec nous, mais qu'il est en nous. Parce que le texte ne dit pas l'ombre de l'Éternel plane ici. Non, il dit l'Éternel est ton ombre. À l'image de notre ombre, à la lumière du soleil, et bien c'est comme ça que Dieu nous accompagne. Il est fiable, il est constant. Et on ne doit pas avoir des doutes s'il est avec nous. Oui, il est avec nous. Si un jour le doute nous assaille et puis on se demande, est-ce que Dieu m'a-t-il abandonné? Est-ce qu'il est avec moi? Voilà ce que je vous dis. Allez dehors, tendez votre main vers le soleil. Et si vous ne voyez plus votre ombre, ça veut dire que Dieu vous aura abandonné. Il est constamment avec nous. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Aussi, il y a d'autres textes qui nous parlent de cette constance et de cette fiabilité. Vous connaissez tous le texte qui dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. » L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Qui est cet ange-là? Nous le connaissons ici. Mais pour le bénéfice de l'illustration, j'aimerais avoir un volontaire qui pourrait se présenter à l'avant. Je pourrais toujours choisir le volontaire là. Tiens, mon ami, viens, tu n'auras pas grand-chose à faire. OK. Donc, Jonathan, présentement à l'ange de l'Éternel qui est campé autour de lui. Maintenant, si moi j'essaye de camper autour de Jonathan, là je suis campé à la droite de Jonathan. Je ne suis pas autour de lui là. Je peux toujours changer mon angle, je peux toujours camper derrière Jonathan. Ce n'est pas dangereux. As-tu la foi? OK. Je peux camper à sa gauche, je peux camper devant Jonathan. Mais je ne peux pas camper autour de Jonathan. Ce qui nous dit que cet ange, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous fait bénéficier de son omniprésence. Il est comme une haute tour dans nos vies, une forteresse. Mais celui, lui, qui se confie en l'Éternel, est environné de sa grâce. Jonathan, pendant que tu vas prendre reprendre ta place, nous allons voir la preuve visible que l'Éternel est avec cet homme-là. Regardez son ombre le suit. Même Jonathan aussi, regardez. Sa fidélité est là dans les moments de danger, dans les moments de tentation. La parole de Dieu nous dit que c'est encore sa fidélité qui nous garde. Dans le livre de l'Apocalypse, on nous le présente comme le témoin fidèle et véritable, l'Amen. Et ça, c'est important, ça. Je ne sais pas si des fois on réfléchit à ça. Il est présenté comme l'Amen. Et c'est son nom même qui est fidèle. Le cavalier du cheval blanc de l'Apocalypse, son nom est fidèle et véritable. Il est le témoin fidèle, il est celui qui nous a transmis le plan de Dieu fidèlement, la nature, le caractère de Dieu fidèlement, il nous a enseigné là-dessus. Sa vie a été vraiment un témoignage fidèle de qui est Dieu. Et on réclame d'un témoin, ce qu'on attend de témoin, c'est qu'il nous dise avec exactitude ce qu'il a vu et entendu. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Pourquoi? Parce qu'il était auprès du Père. Il a connu le martyr, il a été martyrisé à la croix, il a connu l'enfer à la croix, littéralement massacré pour vous et moi, afin qu'on puisse avoir le salut. Son nom, c'est fidèle. Il nous a apporté la lumière comme nulle autre personne l'a apporté. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, « Celui qui reçoit ma parole ne sera jamais dans les ténèbres. » Jamais, jamais. Écoutez, le mot « ténèbres », lorsqu'on le dit, c'est souvent associé à ce qui est mauvais, à ce qui est péché, à ce qui est mal. En quelque sorte, toutes ces choses-là découlent des ténèbres. Mais l'explication et surtout le mot grec nous donne une autre définition. Ténèbres veut dire incompréhension. Celui qui reçoit la parole de Jésus ne sera jamais dans l'incompréhension. Le monde prétend être aussi dans la lumière. Il y a eu les siècles des lumières. Mais ce que le monde appelle lumière, Jésus-Christ, lui, appelle ça ténèbres. Oui, c'est comme ça qu'ils appellent leur ténèbres, ils appellent ça lumière. Et c'est ça que le Seigneur nous dit. Le Seigneur leur dit, si votre lumière est ténèbre, mais alors là, combien sont grandes vos ténèbres? Si ce que tu appelles lumière provient à la base d'une incompréhension, elles sont grandes vos ténèbres. Il y a un texte que j'aime particulièrement, c'est se trouve dans 1 Pierre 1, je pense que c'est le verset 19, si on peut... 2 Pierre 1, oui, excusez. Dans le verset 19, ou 9, bon, il va me sauver la vie, là, lui, en haut, là. Okay. Écoutez ce que l'auteur dit. « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » L'histoire de ce peuple d'Israël, une histoire phénoménale qui est conduite par une lampe. Israël est dans des lieux obscurs constamment depuis son existence, elle est conduite par une lampe. Les prophéties, c'est ça, c'est une lampe pour Israël. En passant, la parole de Dieu en ensemble, c'est un livre prophétique. Parce que Dieu s'est fait connaître par révélation. Ce n'est pas que l'Apocalypse. L'Apocalypse nous parle des prophéties, des choses à venir. Mais tout l'ensemble de la parole, c'est un livre prophétique, c'est par révélation que nous sommes à connaissance de ce qui est écrit. Et c'est pour ça qu'il compare la prophétie, la parole prophétique, dis-je bien, à une lampe. Et voici la bonne nouvelle. Jusqu'à ce que vienne apparaître l'étoile du matin. Une lampe, mesdames et messieurs, ce n'est pas une étoile. Une étoile, ce n'est pas une lampe. Une étoile, c'est un astre brillant. C'est un faisceau lumineux. Il est la lumière du monde. Il éclaire tout homme. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Fidèlement, nous avons la lumière du monde pour nous enseigner sur les choses de Dieu. Jésus-Christ lui-même. À notre tour, nous devons être imprégnés de sa fidélité, que chacun de nous soit fidèle envers ses engagements. Attachez-vous à votre ministère. Soyez fidèle dans le fait de prendre soin de votre famille. Soyez fidèle à Dieu, soyez fidèle à ses commandements. Si un jour vous avez dit « oui, je le veux », que votre « oui » soit « oui ». Et c'est sur cette base-là que nous recevrons de la part de Dieu l'ultime récompense. Moi, j'appelle ça l'ultime récompense. Lorsque le Seigneur aura à dire à ceux qui ont été trouvés fidèles, bon et fidèle serviteur. Dans les petites choses que je t'ai confiées, tu t'es révélé fidèle. Maintenant, entre dans la joie de ton maître, entre dans ma présence, viens me servir de plus près. Pour moi, c'est le summum. Viens me servir de plus près. Remarquez encore une fois ici, bonté et fidélité se suivent. Bon et fidèle serviteur. Bien entendu, écoutez, dans la culture mondiale, lorsqu'on dit que quelqu'un est bon, on associe ça plutôt à ses compétences, ses habiletés, ses aptitudes. Les aptitudes, c'est les facilités qu'on a pour faire quelque chose. Et puis, c'est toujours très relatif. Un jour, je donnais une illustration à un de mes élèves en piano qui commençait, qui débutait. Et puis, il a dit, « Waouh, tu es bon, prof !» Et puis, là, je lui ai dit, « Écoute, mon garçon, devant Beethoven, là, je suis nul. »« Oui, complètement nul. Devant Sébastien Bach, là, je suis nul. » C'est surpris. C'est très relatif lorsqu'on dit « je suis bon dans quelque chose ». Ici, ce n'est pas cette forme de bonté que la parole de Dieu dit lorsqu'il dit « bon et fidèle serviteur ». C'est celui qui a fait preuve de bonté envers les autres. C'est celui qui a fait preuve de générosité du cœur, qui a été généreux de son temps, qui a servi Dieu et les saints, non pas par devoir religieux, mais par amour et par reconnaissance. Imaginez-vous, nous aimons tous de la louange. Hein? Nous aimons secrètement une petite part de louange. Là. C'est une légère tendance, minime, minime, minime. Les femmes, on peut doubler ça. Excusez-moi. Facilement. Mais imaginez-vous, ici, c'est Dieu qui fait la louange d'un serviteur, bon et fidèle serviteur. Là, c'est là une louange qui vient de Dieu. Waouh! Est-ce que vous croyez qu'il y a plus de plaisir à donner que recevoir? Vous le croyez? Pourquoi c'est moi qui vous fais tout le temps des compliments et pas vous autres? Dans les compliments, on aime plutôt recevoir qu'en donner. Hein? Il ne faut pas dire ça à un boxeur qui va faire sa game. Plus de plaisir, lui a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Hein? Dieu qui fait la louange de son serviteur qui a été trouvé fidèle. Imaginez. Si tu te trouves fidèle à ce que Dieu a dit, Dieu va te dire, entre dans ma présence, viens, je vais te faire un gros câlin et ça va te faire du bien. Que Dieu nous accorde d'être trouvés fidèles dans tous les engagements qu'on a pris, surtout dans les affaires, les alliances qu'on fait en tant qu'affaires, qu'on soit trouvés intègres. Si nous faisons des contrats, remplissons notre contrat avec intégrité. Que Dieu bénisse les alliances de ses frères, de ses enfants rachetés. Dieu est constant. Il est constant dans tout ce qu'il est, dans toutes ses œuvres, ses perfections, sa nature, dans tout ce qu'il a fait, il est constant, sa parole est constante. Et c'est pour ça que Jacques va le définir ainsi. Tout don parfait, toute grâce excellente, viennent d'en haut, Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et c'est ce que nous avons besoin, c'est ce que nos cœurs ont besoin, c'est de la stabilité que nous avons besoin. Et savez-vous quelle est la chose qui est peut-être la plus inconstante dans notre monde? C'est moi qui le dis, je peux me tromper. C'est la théorie de l'évolution. Il n'y a rien de plus inconstant que cela. On change les définitions des choses à chaque décennie sous le prétexte qu'on évolue. Parce que évoluer pour les gens veut dire on devient meilleur. Il n'y a rien de plus inconstant que cela. La raison humaine chancelle. Et ça va tomber. Et c'est pour ça que Dieu, avec autorité, dans sa fidélité, il dit à son peuple, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Un serviteur peut tomber. Je me suis toujours posé cette question, Seigneur, mais on peut tomber. Tu dis que si le serviteur tombe, Dieu en fait son affaire. C'est-à-dire, garder les jugements qu'on va proférer à l'endroit de ce serviteur qui a tombé. J'en fais mon affaire, parce que nos jugements sont toujours accompagnés de sentences aussi. Je connais mon serviteur, je vais le ramener sur le chemin de l'humilité. Lorsqu'on tombe, c'est l'orgueil qui précédait notre chute. C'est notre attitude de cœur. Chanceler dépend pas entièrement de nous. Ça dépend un peu de nous, mais pas entièrement. Chanceler dépend de sous quelle base que ton pied, que tes pieds marchent. S'il y a des craques dans le plancher, ça se peut que tu chancelles et que tu tombes. La raison humaine, présentement, est sur une base chancelante. Ça ne dépend pas de la force de nos pieds. Tu as beau avoir des jambes, des troncs d'arbres, comme on dit. J'en ai vu pour les Olympiques, c'est des troncs d'arbres. Ça, c'est... Même si je renaissais une deuxième fois dans le ventre de ma mère, je n'aurais jamais des jambes comme ça. C'est phénoménal. Là. C'est... Ça ne dépend pas de la force de notre jambe chancelée. Lorsqu'il y a eu le tremblement de terre en Haïti, eh bien, même les jambes les plus costauds ont chancelé. Ils ont plié, ils ont vacillé. Ils ont oscillé parce que la terre ne donnait plus sa fermeté comme appui. Et c'est là qu'il dit, je ne permettrai pas que mon peuple chancelle s'il s'appuie sur ma parole. Ma parole appliquée dans leur vie est comme un roc, un rempart, un pilier. Et il y a ici de l'autorité, je ne permettrai pas qu'ils chancellent à cause de ma fidélité, c'est stable. Ils sont debout sur quelque chose de solide. Nous devons vraiment demander à Dieu de nous trouver fidèles, vraiment. Et si nous sommes infidèles, lui, c'est sa nature d'être fidèle, il ne changera pas. La fidélité de Dieu ne dépend pas de comment nous le sommes à notre tour. Lui, il ne change pas. Il n'y a ni ombre de variation, il n'y a ni changement en lui. Son nom est fidèle. Il ne deviendra pas le contraire de ce qu'il est. Mais cependant, nous sommes appelés à être fidèles dans tous les engagements qu'on prend, fidèles aussi à nous pardonner les uns les autres. Dans quoi qu'on est fidèle à se pardonner? Dans quoi? On n'est pas fidèle au pardon, là. On est fidèle à quelque chose d'autre. Le Seigneur a dit, de même que moi je vous ai pardonné, c'est à ça qu'on est fidèle. De même que moi je vous ai pardonné, pardonnez-vous réciproquement les uns les autres. On est entré dans la famille du Seigneur par la porte du pardon. Et ça devient une condition pour tous les membres de la famille du Seigneur de se pardonner les uns les autres et d'être fidèles à le faire. Parce que le Christ nous l'a demandé. Vous savez, on peut lire des encyclopédies sur le processus du pardon, les étapes. Il y a des livres intéressants pour ça. Je ne sais pas s'il est vraiment nécessaire de toutes les lire avant de pardonner un frère. Mais j'en connais des personnes qui n'ont jamais lu ces livres-là, mais qui m'ont offert un pardon vraiment véritable. Et je dis merci au Seigneur. Parce que le pardon, c'est une volonté de faire grâce à l'autre. Ça part de là. On peut lire tout. Il y a des choses intéressantes là, dans cela, je ne dis pas. Il y a des dimensions, mais ça part d'une bonne volonté, ça part de la volonté à faire grâce à l'autre. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est sur cette base-là même, c'est sur la base de la fidélité de Dieu qu'il nous pardonne. N'oubliez pas, si nous avons péché, si nous reconnaissons que nous avons péché, qu'est-ce que Jean dit? Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est sur la base de la fidélité de Dieu qu'on obtient le pardon. Mais à quoi Dieu est fidèle? Il faut le savoir à quoi qu'il est fidèle. À quoi qu'il est fidèle pour nous pardonner? Ce n'est pas fidèle au pardon, c'est fidèle à quelque chose d'autre. Fidèle à l'alliance qu'il a faite avec son fils. Et pourquoi c'est juste qu'il nous pardonne? Imagine-toi, là, ça, j'ai jamais entendu ça. Je donne un coup de poing à mon frère et puis c'est juste que tu me pardonnes. Là, je viens de t'allumer pour que tu m'en remettes deux. À cause de l'alliance qu'il a faite avec son fils est toujours là pour intercéder pour nous à chaque fois que nous manquons le but. Père, j'ai payé la note pour lui. Nous avons un avocat auprès du Père. Avocat veut dire celui qui est côte à côte. Il est côte à côte avec son Père et il est côte à côte avec nous. Il tient à nos côtés, comme un boxeur, ouais. On représente comme la prunelle de ses yeux. Nous devons être fidèles à pardonner les uns les autres, fidèles à l'alliance, fidèles à ce que Dieu dit de nous pardonner les uns les autres, point final. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Nous n'avons pas besoin d'aller lire des encyclopédies avant de le faire. Nous avons tout simplement de regarder dans la position que j'étais et j'ai reçu un pardon extraordinaire. Un pardon dont les dimensions ne sont pas mesurables. Et à mon tour maintenant, réciproquement, j'aimerais qu'on puisse revenir au texte du début qui était dans 1 Thessaloniciens. C'était le texte. Je redis encore et on terminera avec cela. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Dans ce texte, je soulève trois points qu'il faut observer. La première chose, c'est notre responsabilité personnelle à chacun de nous. Puisque nous sommes saints, et ça, dans la position que Dieu nous a placés, quant à la position que Dieu nous donne, nous sommes saints, non pas dans notre état et dans notre condition, dans la position qu'il nous place, nous sommes saints, alors là, nous sommes aussi appelés à vivre conformément à la position que Dieu nous a placée. Nous devons pratiquer la sainteté. C'est une responsabilité personnelle. Le deuxième point, c'est que si on pense qu'on n'y arrivera pas, ou qu'on a sombré dans le découragement, eh bien, le Seigneur nous dit qu'il est encore là pour intervenir, afin de nous aider à marcher dans le chemin qui lui plaît, dans la voie qui lui est agréable. Et la troisième, qui est vraiment exceptionnelle, c'est que le Seigneur dit, lors de ma venue, à ma prochaine venue, l'Église sera trouvée sainte, glorifiée. Sainte et glorifiée. Alors là, ce ne sera pas seulement notre position, mais ce sera notre état et notre condition qui sera correspondante à la position que Dieu nous a placée. Et ça, on a une garantie. La parole de Dieu donne cette garantie dans ce verset. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est son œuvre. Nous avons l'assurance d'une totale sanctification grâce à la fidélité de Jésus-Christ. C'est lui qui le fera. Nous serons rendu semblable à lui. Ça va être fini, toutes les incompréhensions qu'on a, toutes les divergences qu'on avait. Personne n'osera dire, « Hey, Sylvain, c'est moi qui avais raison, tu te souviens? » Non, on va être devant le Seigneur. Là. Tu penses-tu là, qu'on va régler nos comptes, nos anciens comptes? C'est moi qui avais raison lorsque... Non, il est là. C'est lui la lumière, c'est pas notre raison qui était la lumière, c'est lui. Ça va être fini, les illusions, complètement fini.